La diplomatie iranienne a rejeté les tentatives de tenir une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme sur l'Iran. En Syrie, au moins 24 terroristes Daesh ont été tués par les forces de sécurité. Et en Somalie, 12 éléments de Shebab ont été tués dans le centre du pays. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Lors d'une conversation téléphonique, jeudi 10 novembre, avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rejeté les tentatives de tenir une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme sur l'Iran, avant de mettre en garde contre les effets négatifs de cette action politique sur la coopération de l'Iran avec l'Occident. Les développements régionaux et internationaux, la situation en Ukraine et au Yémen, ainsi que les négociations sur la levée des sanctions illégales contre l'Iran, figuraient au menu des discussions des deux parties. En allusion au dialogue technique entre l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, M. Amir Abdollahian a qualifié de positive la coopération entre les deux instances. Téhéran a envoyé à Vienne une délégation technique pour mener des négociations avec l'AIEA sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran. Le directeur général de l'AIEA a également annoncé que l'équipe technique de cette organisation devrait se rendre prochainement à Téhéran. Plus loin dans ses propos, le chef de la diplomatie iranienne a évoqué les récentes émeutes en Iran et dénoncé les interventions sécuritaires et médiatiques d'un pays arabe. Il a mis l'accent sur la poursuite du rôle de la République islamique d'Iran dans la prolongation du cessez-le-feu au Yémen et de sa coopération avec les Nations Unies à ce sujet. M. Amir Abdollahian a une fois de plus fermement démenti les accusations infondées sur une prétendue livraison par l'Iran de drones à la Russie pour un usage sur le champ de bataille en Ukraine. Il a vivement critiqué les positions et les actions contre-productives de certains pays. Contrairement à la Charte des Nations Unies, un nombre infime de gouvernements occidentaux ont exploité les revendications pacifistes en Iran pour y propager la violence. Ils ont enseigné à fabriquer des cocktails Molotov et des armes dans l'espace virtuel et médiatique. Plusieurs policiers en sont morts et l'insécurité créée par la suite a offert un certain propice à l'opération terroriste de Daesh à Shiraz, a-t-il expliqué. Le secrétaire général des Nations Unies a pour sa part rendu hommage au rôle constructif de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme et à ses efforts pour rétablir un cessez-le-feu au Yémen. Il a appelé à la poursuite de la coopération entre l'Iran et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen. Récemment, le ministre iranien des Affaires étrangères a adressé une lettre au président de l'ONU déplorant l'absence de réaction du Conseil de sécurité à l'égard de l'attentat terroriste de Shiraz. L'absence de réaction de certains membres permanents du Conseil montre qu'il divise encore les terroristes en bons et mauvais, a-t-il indiqué. Il convient de noter que certains gouvernements occidentaux prévoient de tenir une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme sur l'Iran. Au moins 24 terroristes daéchistes ont été tués par les forces de sécurité syriennes à Deraa, dans le sud-ouest de la Syrie. Les unités de sécurité du gouvernement syrien ont éliminé vendredi 11 novembre au moins 24 daéchistes lors d'une opération spéciale près de la ville de Deraa, dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le général de division Oleg Egorov, ajoutant que les unités de la sécurité de l'État syrien ont achevé une opération spéciale de recherche et de liquidation des membres de Daesh dans le quartier de Deraa al-Balat de la ville de Deraa. Selon le général de division Oleg Egorov, la zone a été nettoyée de la présence des terroristes. Plus de 300 bâtiments ont été fouillés, 24 terroristes ont été tués, 24 autres ont été capturés et 6 engins explosifs ont été trouvés et démantelés. Par ailleurs, 21 membres des formations armées de l'opposition syrienne ont réglé leur situation. À cet égard, 62 armes ont été livrées, dont 50 fusils d'assaut et 12 lance-grenades, ainsi que plus de 8000 cartouches, a-t-il précisé. Le général russe a ajouté que le travail quotidien du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie est de résoudre la situation des terroristes qui se sont rendus à l'armée syrienne et que la réception des armes et des munitions dans la région de Deraa al-Balad se poursuit. Le général de division Egorov a également indiqué que dans le gouvernorat d'Idlib, une attaque au mortier menée par des terroristes de la région de Marat Maous contre des positions des forces gouvernementales dans la même zone a entraîné la mort d'un soldat syrien et un blessé. Cela intervient alors que le fossé se creuse entre les groupes terroristes. La tension monte une fois de plus entre la France et l'Italie après leurs différends sur l'accueil des migrants venant de pays dont le gouvernement et le peuple souffrent depuis longtemps des répercussions des politiques colonialistes, destructrices et maximalistes de l'Occident. Cependant, malgré leur précédent slogan concernant l'adoption de mesures uniques pour le dossier des réfugiés, les puissances occidentales se dérobent régulièrement à leurs responsabilités et se renvoient fréquemment la balle. Après le refus italien d'accueillir le navire Ocean Viking avec 230 migrants à bord et son arrivée à Toulon en France, la crise diplomatique a éclaté une fois de plus entre la France et l'Italie. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a dénoncé le comportement de Rome. La France a décidé de pallier le comportement inacceptable et irresponsable de Rome, a-t-il indiqué. Il a par ailleurs alerté que cet épisode aura des effets extrêmement forts sur la relation bilatérale entre l'Europe et l'Italie. Le ministre a également annoncé la suspension à effet immédiat de l'accueil prévu de 3500 migrants actuellement en Italie. En revanche, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a pour sa part repris les justifications avancées la veille par son ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, qui avait rétorqué à son homologue français que l'Italie avait accueilli cette année près de 90 000 migrants, alors que les pays européens qui s'étaient engagés à l'aider et à prendre en charge 8 000 personnes n'en avaient finalement accueilli que 117. Par ailleurs, elle a dit être très étonnée par la réaction agressive, incompréhensible et injustifiée de Paris, qui a annoncé des mesures de rétorsion après le refus italien de faire accoster un navire transportant des migrants. La présidente du Conseil italien a toutefois affirmé qu'elle apporterait son soutien à trouver une solution inter-européenne à la question migratoire. L'Union européenne reconnaît avoir accueilli des réfugiés dont la majorité ne sont pas des migrants. Mais Paris a suspendu ses plans d'accueil de 3500 réfugiés actuellement en Italie, appelant tous les pays du mécanisme de relocalisation des migrants de l'Union européenne à adopter des mesures similaires. Un tiers des 234 demandeurs d'asile à bord du navire seront relocalisés. Alors que les pays de l'Union européenne continuent de ne pas assumer collectivement leurs responsabilités sur la question des migrants, environ 20 000 demandeurs d'asile sont morts en tentant de traverser la mer Méditerranée depuis 2014, tandis que des dizaines de milliers sont bloqués dans des centres de détention libyens où la torture, la violence et les abus sexuels sont monnaie courante. Le navire Ocean Viking avec 234 migrants à bord est arrivé vendredi au port de Toulon, dans le sud de la France, après trois semaines d'errance à la recherche vaine d'un port sûr en Italie. L'armée somalienne a annoncé vendredi avoir déjoué une attaque terroriste du mouvement Al-Shabaab et la neutralisation de 12 de ses membres dans la région de Hiran, au centre du pays. L'armée a déjoué une tentative d'attaque terroriste contre un camp militaire dans la ville de Bordar, dans la province de Hiran, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Abdullah Ali Anout, dans une déclaration accordée à l'agence de presse officielle Sunna. La même source a ajouté que l'armée a reçu des informations faisant état d'une attaque terroriste ciblant un camp militaire où 12 membres des Shabab ont été tués et d'autres blessés. Le porte-parole du ministère a également indiqué que 3 membres de l'armée ont été blessés lors de l'attaque. Les forces gouvernementales, en coopération avec les milices tribales, poursuivent les opérations militaires contre le mouvement rebelle Al-Shabaab, au cours desquelles elles ont tué des dizaines de membres du mouvement et repris le contrôle de nombreuses zones. Depuis des années, la Somalie mène une guerre contre le mouvement Al-Shabaab fondé au début de 2004. Il s'agit d'un mouvement armé idéologiquement affilié à Al-Qaïda et il a adopté de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts. Le président angolais, João Lourenço, est arrivé vendredi au Rwanda pour une médiation entre les autorités rwandaises et la République démocratique du Congo, RDC, qui accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, dans l'est congolais. Médiateur pour une solution diplomatique, le chef de l'État angolais qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs est arrivé dans la capitale rwandaise Kigali en début d'après-midi vendredi. Il a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, dans le cadre d'efforts régionaux visant à normaliser les relations entre le Rwanda et la RDC, selon la télévision publique rwandaise. M. Lourenço était déjà parvenu à faire signer une feuille de route en juillet dernier entre Paul Kagame et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en Angola, lors d'une réunion tripartite. Une trêve avait été observée pendant plusieurs semaines avant que les combats ne reprennent en octobre dernier. Les autorités congolaises ont expulsé l'ambassade rwandaise en octobre. Au moins 184 000 personnes avaient fui leur village depuis le 20 octobre, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Pas de moins 16 000 autres ont trouvé refuge en Ouganda. D'après le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ces nouveaux déplacements portent à au moins 237 000 le nombre de personnes déplacées depuis mars, lorsque les premiers affrontements ont éclaté. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'ennemi a échoué à éloigner la nouvelle génération de la résistance. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré vendredi 11 novembre que l'ennemi n'a pas réussi à détourner la nouvelle génération dans la région du juste chemin de la résistance. Il a fait ses remarques à Beka lors d'une cérémonie marquant la journée des martyrs au Liban. Le chef du mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, se référant à l'opération martyr de la résistance menée le 11 novembre 1982 contre le bâtiment du quartier général militaire israélien à Tir, au cours de laquelle plus de 100 soldats et officiers israéliens ont été tués, a déclaré « Cette opération a ébranlé l'ennemi ». Hassan Nasrallah a évoqué les complots de l'ennemi visant la nouvelle génération des pays de la résistance. L'ennemi, notamment les États-Unis, a cherché à répandre des cultures inappropriées et une culture de l'indifférence parmi notre jeunesse. Malgré toutes les tentatives de l'ennemi dans le cyberespace, je dois dire que l'ennemi n'a pas réussi à éloigner nos enfants du juste chemin de la résistance. Nos jeunes rivalisent même entre eux aujourd'hui pour aller sur les fronts de guerre et porter bien haut le drapeau de la résistance. Nasrallah a déclaré que les démocrates et les républicains aux États-Unis ont toujours soutenu les crimes et les meurtres de Palestiniens par le régime sioniste. Concernant les récentes élections législatives en Israël, le chef de la résistance libanaise a souligné « Tous les gouvernements et cabinets israéliens ont toujours été des terroristes et corrompus. Nous ferons face à tout cabinet israélien, qu'il soit extrémiste ou modéré, de gauche ou de droite. » Avec notre pouvoir et nos éléments. Il en va de même pour l'accord de démarcation maritime. Nous ne comptons que sur notre force pour affronter Tel Aviv. Washington n'a pas conclu l'accord de démarcation de la frontière maritime pour le bien du Liban, mais plutôt pour épargner la région de la guerre, car ses priorités sont maintenant l'Ukraine, la Russie et l'énergie. A poursuivi Nasrallah, appelant ensuite le peuple libanais à ne pas capituler face à la malédiction des États-Unis, dont le seul désir est de protéger le régime israélien. Faisant référence aux élections américaines de mi-mandat, Nasrallah a déclaré que les gouvernements républicains et démocrates ont lancé des guerres et des invasions. Les démocrates et les républicains américains ont toujours soutenu les crimes et les massacres israéliens contre le peuple palestinien, a-t-il ajouté. Les objectifs de toutes les administrations américaines sont similaires. Seules leurs tactiques diffèrent. Il n'y a pas de différence entre les démocrates et les républicains. Par conséquent, nous devrions compter sur notre propre pouvoir et nos alliés au lieu de mettre nos espoirs entre les mains des Américains. Le chef du Hezbollah fait remarquer à propos de l'aide énergétique de l'Iran au Liban. Lorsque notre pays était impliqué dans de graves crises financières et énergétiques, l'Iran a accepté de nous fournir du carburant, du pétrole et de l'essence achetés et payés en livres libanaises. Mais les États-Unis ont mis en garde l'Iran à ce sujet. En ce qui concerne les besoins en électricité et autres énergies, le Liban a officiellement envoyé des délégations politiques et techniques en Iran, qui a également accueilli ces demandes sans aucune restriction. Mais pourquoi le transfert de l'aide est-il arrêté depuis des mois? Parce que les Américains sont opposés à ce projet et les Libanais se doivent de le savoir. Concernant la politique américaine dans la région, tout en condamnant la loi César et les sanctions contre le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen, Saïd Hassan Nasrallah a évoqué les événements internes en Iran avant de rappeler que la République islamique d'Iran a su, une fois de plus, déjouer les intrigues des Américains et de l'alliance israélo-occidentale.